Temps universel.
Washington, la voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Bonsoir à tous, Jean-Roger Billon à ce micro. Dans moins de 5 minutes, le magazine de l'économie, dont voici quelques reliefs. La croissance de l'économie américaine au troisième trimestre a été plus forte depuis 11 ans. Le Ghana se lance dans le nucléaire pour subvenir à ses besoins énergétiques.
Dans un premier temps, le gouvernement ghanéen souhaite déployer une puissance atomique de 700 MW qui sera ensuite portée à 1000 MW.
Michel Joseph nous en dira davantage. Et lancement au Nicaragua de travaux de construction d'un gigantesque canal qui va rivaliser un jour avec celui de Panama. Le point sur l'actualité d'abord. En Côte d'Ivoire, un second proche de l'ex-ministre ivoirien, de l'ex-premier ministre Charles Konan Bani, candidat à l'investiture de son parti pour la présidentielle de 2015, a été arrêté par la police économique. Arthur Aloko, c'est son nom, est accusé de blanchiment de capitaux pour un montant de 500 millions de francs CFA, environ 800 000 dollars. Un premier proche de M. Bani avait été convoqué vendredi et placé en détention pour un autre crime économique présumé. L'opinion publique à Abidjan pense à un règlement de compte politique. Maurice Saé, économiste et analyste politique, offre une explication.
C'est le sentiment qu'on a, c'est le sentiment que certains ont, parce que ces derniers temps, il faut se rappeler, M. Bani, donc, est mis en cause, ce sont des proches, a déposé en tant que président de la CDVR, la Commission de réconciliation nationale, a déposé son rapport et surtout a rendu sa démission et s'est porté candidat à la candidature pour son parti aux élections prochaines. Il faut se rappeler aussi que le président de son parti a fait un appel en faveur du président actuel, souhaitant que le parti ne présente pas de candidat en face. Donc, tous ces éléments mis ensemble, les gens ont tendance effectivement à penser que la justice serait actionnée.
L'économiste et analyste politique Maurice Saé. Toujours en Côte d'Ivoire, l'AFP rapporte une grève de faim de 151 prisonniers détenus pour des délits liés à la crise post-électorale de 2010-2011. Ils réclament leur libération provisoire et selon un cadre pénitentiaire, ils ont été hospitalisés et leur cas n'est pas grave. La même source fait état de plus de 300 grévistes de la faim à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan, la MACA. En octobre 2013, Doudou Diène, un expert onusien, avait appelé à la libération provisoire de tous les détenus de la crise, souvent emprisonnés depuis des années sans que leur dossier n'avance. En République démocratique du Congo, la veuve de Patrice Lumumba, le héros de l'indépendance congolaise et l'un des pères du panafricanisme, est morte dans son sommeil à Kinshasa. Pauline Opango Lumumba était restée discrète et à l'écart de toute activité politique depuis la mort de son mari en 1961. Âgée de 72 ans, elle est citée dans l'histoire du héros congolais en tant que destinataire des dernières lettres de Lumumba.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Et nouveau tour de force des pirates écumant les eaux maritimes et fluviales du Nigeria. Ils ont détourné une canonnière dans l'état pétrolier de Bayelsa. Les précisions, Michel Joseph.
Selon le colonel Mustapha Anka, porte-parole militaire, la canonnière était en patrouille sur la rivière Santa Barbara, dans une zone où sévissent les pirates lorsqu'elle est tombée dans une embuscade. Les assaillants ont pris contrôle du bâtiment qu'ils ont emmené vers une destination inconnue. Trois soldats sont portés disparus depuis cette embuscade et des efforts se sont poursuivis aujourd'hui pour les retrouver. Au mois d'octobre, les pirates opérant sur cette même rivière ont attaqué l'escorte militaire d'une barge transportant du pétrole brut. Ils ont tué trois soldats et détourné une canonnière. Les pirates du Nigeria siphonnent du pétrole brut pour le revendre, de même qu'ils prennent des otages afin de les libérer contre rançon. La recrudescence de la piraterie dans le golfe de Guinée a atteint un niveau alarmant cette année. Les chefs d'État de la région, réunis à Yaoundé en juin 2013, avaient annoncé la création d'un centre de coordination interrégional contre la piraterie et des centres régionaux. Cependant, faute de moyens, l'initiative a du mal à fonctionner.
Et nouveau bilan de l'épidémie d'Ebola, le nombre de décès a maintenant dépassé 7500 sur près de 20 000 cas confirmés. Les derniers chiffres publiés lundi par l'Organisation mondiale de la santé reflètent une baisse du taux de transmission du virus au Libéria et en Guinée, alors qu'il a augmenté en Sierra Leone. Ces trois pays sont les plus touchés. On y retrouve la quasi-totalité des cas de décès. Le bilan dans les autres pays reste inchangé, soit 6 morts au Mali, 8 au Nigeria et 1 aux États-Unis. L'Espagne et le Sénégal ont eu un cas d'Ebola chacun, mais aucun mort. La suite, c'est avec le magazine de l'économie.
Camille Grosdidier pour le magazine hebdomadaire de l'économie. Les titres tout d'abord. La croissance de l'économie américaine au troisième trimestre a été la plus forte depuis 11 ans. Le Ghana se lance dans le nucléaire pour subvenir à ses besoins énergétiques.
Dans un premier temps, le gouvernement ghanéen souhaite déployer une puissance atomique de 700 MW qui sera ensuite portée à 1000 MW.
Michel Joseph nous en dira plus. En Afrique de l'Ouest, la production agricole en chute libre dans les pays où sévit le virus à Ebola.
L'impact le plus important, c'est les perturbations. Et à travers ces perturbations, le secteur agricole, le manque de main-d'œuvre, a un impact sur la production agricole.
On entendra l'économiste Jean Senaoun de la FAO et lancement au Nicaragua des travaux de construction d'un gigantesque canal qui rivalisera un jour avec celui de Panama en reliant le Pacifique à la mer des Caraïbes. La croissance de l'économie américaine au troisième trimestre a été la plus forte depuis 11 ans. Elle a été chiffrée à plus 5% en rythme annualisé. C'est ce que révèlent les données définitives publiées mardi par le département américain du commerce. Ce chiffre, qui est nettement meilleur que celui publié en première estimation, confirme une amélioration des fondamentaux de l'économie américaine. La croissance du produit intérieur brut, le PIB, des États-Unis n'avait pas été aussi forte depuis le troisième trimestre 2003. Après une contraction surprise au premier trimestre de 2013, en raison notamment d'un hiver particulièrement rigoureux, le PIB américain avait progressé de 4,6% au deuxième trimestre. On s'attend à ce que la croissance ralentisse au quatrième trimestre de l'année, mais l'amélioration sur le front de l'emploi et la baisse des prix du pétrole devraient quand même permettre à la Banque centrale américaine de commencer à relever ses taux d'intérêt directeurs autour de mi-2015, signale l'agence Reuters. Camille Grosdidier avec vous. Toujours concernant les États-Unis, eh bien, le département américain de la justice a annoncé lundi avoir démonté un énorme système international de corruption. Il implique le groupe énergétique français Alstom, qui a versé des pots de vin pendant plus d'une décennie, de 2000 à 2011, à des officiels des gouvernements de plusieurs pays. D'autres précisions avec Jacques Aristide.
D'après les autorités américaines, Alstom a accepté de plaider coupable de violation de la loi américaine sur les pratiques de corruption à l'étranger en rapport avec cette affaire. Le vice-ministre de la Justice, James Cole, parle d'une décision historique qui, a-t-il dit, a mis fin à un programme transnational de corruption impliquant Alstom et ses filiales en Suisse et aux États-Unis. Ils ont soudoyé des officiels pour obtenir des contrats en Indonésie, en Égypte, en Arabie Saoudite et aux Bahamas. Alstom a payé en tout des dizaines de millions de dollars pour des projets évalués à 4 milliards de dollars et s'assurer ainsi des bénéfices de 300 millions de dollars environ. En acceptant de plaider coupable, a ajouté M. Cole, Alstom va payer une amende de plus de 772 millions de dollars. Si cette amende est approuvée l'année prochaine par un tribunal fédéral, ce sera de l'histoire des États-Unis la plus grosse amende jamais payée pour corruption. Selon Leslie Caldwell, autre ministre adjointe américaine de la justice, Alstom utilisait souvent des tierces parties en tant que consultant pour soudoyer les officiels concernés. La corruption d'Alstom n'épargnait aucun coin du globe et c'était en réalité sa façon de faire des affaires. En Indonésie, par exemple, Alstom et certaines de ses filiales ont engagé des consultants pour soudoyer des officiels gouvernementaux, dont des membres influents du Parlement indonésien et des entreprises étatiques ou contrôlées par l'État, dont les compagnies d'électricité. Alstom a ainsi agi pour gagner des contrats très lucratifs estimés à plusieurs millions de dollars dans le secteur énergétique. Quatre hauts responsables d'Alstom ont déjà plaidé coupables en rapport avec ce qui s'est passé en Indonésie, a déclaré Madame Caldwell. Son collègue James Cole a souligné que la lourde amende qui attend Alstom et la coopération dont ont fait preuve plusieurs pays dans cette enquête devraient servir d'avertissement aux firmes internationales qui tenteraient de violer les lois anticorruption.
Let me be very clear.
Que ce soit très clair, la corruption n'a pas de place sur le marché international. Et le cas d'Alstom signifie que les États-Unis continueront de jouer un rôle de premier plan pour son éradication. Pour les autorités américaines, Alstom avait commis une grosse erreur en ne coopérant pas assez tôt avec les enquêteurs et en prenant au début des mesures pour tenter de cacher son implication dans ce système de corruption.
Camille Grosdidier avec vous pour le magazine hebdomadaire de l'économie de la Voix de l'Amérique. La récente baisse des prix pétroliers va donner un nouveau souffle à l'économie mondiale, estime le Fonds monétaire international. Selon les derniers chiffres publiés lundi par deux économistes du FMI, elle devrait permettre à l'économie mondiale de gagner jusqu'à 0,7 point de pourcentage de croissance en 2015. Le cours du Brent de Mer du Nord a chuté de plus de 45% depuis son pic en juin au-dessus de 115 dollars le baril, et ce en raison du déséquilibre croissant entre une offre abondante et une demande à tonnes. La chute s'est accélérée depuis la fin du mois de novembre après la décision des pays exportateurs de pétrole de ne pas réduire leur production de brut. Alors, pour les économistes du FMI, un pétrole en baisse devrait stimuler l'économie mondiale en apportant entre 0,3 et 0,7 points de pourcentage de hausse sur la base d'une prévision de croissance de 3,8%. Le produit intérieur brut des États-Unis pourrait d'ailleurs être bonifié de 0,2 à 0,5 points de pourcentage par rapport à l'estimation de 3,1% de croissance en 2015. Ici Washington, Camille Grosdidier pour le magazine de l'économie de la Voix de l'Amérique. Alors, pour les pays producteurs de pétrole qui sont lourdement tributaires de leurs exportations d'or noir, dont entre autres le Nigeria et le Ghana, la baisse des prix du pétrole se traduit par des difficultés de trésorerie. Premier producteur de pétrole du continent, le Nigeria dépend à 70% de ses exportations de brut pour son budget et à 90% pour ses recettes. Il a dû réduire ses prévisions de croissance pour 2015 de près d'un point à 5,5% et a diminué ses dépenses budgétaires tout en durcissant son contrôle d'échange. Et par ailleurs, le Ghana a décidé de se lancer dans le nucléaire sur les traces de l'Afrique du Sud. Le point avec Michel Joseph.
Dès les années 60, le Ghana s'était intéressé à l'énergie nucléaire. Mais la chute de l'ancien président Kwame Nkrumah, renversé par un coup d'État, avait mis fin à ses ambitions. Entre-temps, le pays s'est tourné vers l'hydroélectricité et l'énergie thermique qui ne suffisent plus depuis des années à répondre aux besoins. Après 5 ans de négociations, le Ghana a obtenu enfin le feu vert de l'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, pour se lancer dans la production d'électricité à base d'énergie nucléaire. Dans un premier temps, le gouvernement ghanéen souhaite déployer une puissance atomique de 700 mégawatts qui sera ensuite portée à 1000 mégawatts, ce qui facilitera l'essor de nouvelles industries, explique Robert Sogbaji du ministère ghanéen de l'énergie et du pétrole.
Nous avons ressorti l'idée de passer au nucléaire car on s'est dit ce serait si peu cher qu'on n'aurait même pas à établir un tarif pour l'électricité. On écrirait dans nos livres d'histoire qu'à une époque, il fallait rationner l'électricité dans le pays. Cela permettra également à de nouvelles industries de voir le jour dans des domaines de la technologie de l'acier, du soudage et de la robotique.
La première centrale nucléaire sera construite dans les 5 années à venir. Elle sera pleinement opérationnelle en 2025, lorsqu'elle devrait fournir environ 50% de l'électricité produite par le pays. À terme, le Ghana espère exporter de l'électricité dans la sous-région. Une ombre à ce tableau, la crainte d'un accident nucléaire tel que celui survenu à Fukushima en 2011. Mais selon M. Sogbaji, le Ghana entend respecter les normes internationales de sécurité et établir une agence régulatrice du secteur entièrement indépendante.
Nous allons soumettre au Parlement un projet de loi en vue de la création d'une autorité de réglementation nucléaire. Elle délivrera les permis pour chaque activité et chaque procédure sur la feuille de route qui nous permettra de construire la centrale nucléaire.
Selon Benjamin Nyarko, directeur général de la Commission ghanéenne de l'énergie atomique, la stabilité du pays, son taux de croissance positif ou encore son expérience avec la recherche nucléaire rendent le Ghana particulièrement apte à se tourner vers ce type d'énergie.
Notre recherche dure depuis 20 ans et nous n'avons rencontré aucun problème. Au plan sécuritaire, nous ne présentons qu'un danger. Et les nouvelles centrales nucléaires fabriquées aujourd'hui intègrent des aimants de très haute sécurité qui n'auront aucun effet grave si un accident se produit.
Les centrales nucléaires sont surveillées par l'Agence internationale de l'énergie atomique qui s'assure de leur respect des normes internationales de sécurité, des normes que le Ghana entend respecter.
Ici Washington, La Voix de l'Amérique, vous écoutez le magazine hebdomadaire de l'économie en compagnie de Camille Gros-Didier. Toujours concernant la production énergétique, mais cette fois-ci en Afrique de l'Est, on signale qu'un projet d'interconnexion électrique entre trois pays va bientôt prendre forme. Le Kenya, la Tanzanie et la Zambie vont investir 1,4 milliard de dollars pour favoriser le commerce d'électricité et promouvoir l'intégration économique régionale. C'est ce qu'a signalé le ministère kényan de l'énergie et du pétrole dans un communiqué. Un mémorandum d'entente a été paraphé la semaine dernière. Il définit les principes qui régiront la relation entre les trois pays au cours de la réalisation de la ligne électrique interconnectée. À terme, fait valoir le communiqué, le projet va renforcer les réseaux dans les trois pays, tout en permettant des économies d'échelle en ce qui concerne le développement de la production et de l'exploitation d'électricité. Il réduira également la nécessité d'installation de capacités de réserve par les pays desservis par l'interconnecteur. Camille Gros-Didier qui vous accompagne pour ce magazine hebdomadaire de l'économie de la Voix de l'Amérique. Alors, de l'avis des experts, le raffermissement des liens entre les États-Unis et Cuba pourrait à terme profiter aux sociétés américaines. Mais dans un premier temps, c'est surtout les secteurs bancaires et touristiques qui vont ressentir l'impact de ce dégel. Le point avec Anne Albertson.
L'embargo imposé depuis des décennies par Washington contre la Havane avait déjà été allégé pour permettre des échanges pédagogiques. Les nouvelles mesures prises par le président Barack Obama encourageront certainement le tourisme, estime Jim Moses, président du programme Rhodes Scholar, qui facilite ce type d'échange.
I think demand for Cuba is going to skyrocket.
Je pense que la demande pour Cuba va monter en flèche et je dis cela à cause du petit nombre de programmes que nous avons été en mesure d'offrir ces 8 dernières années. Nous avons été à peine capables de répondre à la demande.
Mis à part le tourisme ou les échanges pédagogiques, l'agriculture cubaine offre des perspectives attrayantes. Pour l'instant, les milieux d'affaires américains ne peuvent exporter vers Cuba que des vivres et des médicaments. Mais si la Havane importe annuellement quelques 2 milliards de dollars de produits alimentaires, les États-Unis n'en représentent que 350 millions. Pour les producteurs américains, la fin de l'embargo pourrait se traduire par une hausse spectaculaire des exportations vers Cuba, explique David Salmonson de l'American Farm Bureau Federation.
We have all the proximity advantage. Our major agricultural exports.
Nous avons l'avantage de la proximité. Nos principales exportations agricoles passent par le port de la Nouvelle-Orléans, qui est à moins d'un jour de navigation de Cuba. Donc, nous sommes le producteur de produits alimentaires le plus proche de Cuba.
Pour d'autres analystes, dont Simon Whistler de la société Control Risks de Washington, les mesures annoncées par le président Obama ne seraient pas aussi révolutionnaires qu'on le croit, et il se pourrait fort bien que la situation n'évolue guère.
L'important chose à retenir ici est que
ce qu'il est important de rappeler, c'est que du point de vue des milieux d'affaires, dans le court terme, le geste est plus symbolique que significatif.
Entre-temps, la décision d'alléger les restrictions pesant sur le régime des frères Castro a suscité la colère de certains Américains d'origine cubaine. Des manifestations ont été signalées à travers le pays. Pour nombre de protestataires, on ne saurait oublier que le régime de la Havane est responsable de violations des droits de l'homme. L'embargo doit rester en place jusqu'à ce que les libertés civiques soient respectées, estiment ces manifestants. Mais de toute façon, cet embargo ne pourra être levé que par le Congrès des États-Unis.
Et par ailleurs, la décision du président Barack Obama de normaliser un peu plus les liens entre Washington et La Havane risque d'affecter les échanges commerciaux entre le Canada et Cuba. Ces derniers ont totalisé près $1 milliard en 2013, rappelle l'agence France-Presse. Le Canada a maintenu ses liens avec Cuba depuis que les États-Unis ont imposé leur embargo au début des années 1960, ce qui a permis aux Canadiens de tisser des liens d'affaires avec Cuba sans avoir à se soucier d'un grand nombre de rivaux, dont les États-Unis. Alors, l'éventuel réchauffement des relations entre Cuba et les États-Unis pourrait remettre en question ces liens. Ici Washington, vous êtes à l'écoute du magazine de l'économie de La Voix de l'Amérique. Le président Barack Obama a signé vendredi un décret interdisant de nouveaux investissements américains en Crimée et empêchant l'exportation ou l'importation de biens de technologie ou de services avec cette région de l'Ukraine. La Crimée a rejoint la Russie suite à un référendum en mars, lequel n'a pas été reconnu par Kiev et l'Occident. La Russie a riposté samedi en promettant de prendre des mesures de représailles suite aux nouvelles sanctions. Et pour enrayer la chute du rouble, elle s'est assurée du soutien de la Chine. Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a annoncé que la Chine, et je cite, « portera assistance à la Russie si besoin est », dans la limite de ses possibilités. Il a assuré qu'un accord bilatéral d'échange de devises n'était pas remis en cause par la chute précipitée du rouble. La devise russe est chahutée par les marchés du fait de l'effondrement des cours du baril de pétrole et des sanctions décrétées par les Occidentaux. En octobre, les banques centrales de la Russie et de la Chine ont conclu un accord de swap, d'échange, un accord d'une durée de 3 ans et qui porte sur environ 20 milliards d'euros. Vous suivez le magazine de l'économie à l'écoute de La Voix de l'Amérique. Alors pourquoi la Russie ne réussirait pas là où les pays islamiques ont réussi? Moscou veut s'inspirer du succès de la finance islamique pour lancer des services financiers conformes aux principes de l'Église orthodoxe. C'est ce que signale l'agence France-Presse dans un reportage repris ici par Bagassi Koura.
Isolée des marchés occidentaux par des sanctions liées à la crise ukrainienne, la Russie n'entend pas se laisser faire. Grâce au président Barack Obama et à la crise, nous avons réalisé que nous ne pouvions pas compter sur le système financier occidental, a déclaré lundi Dmitri Lyubomirov, l'un des promoteurs de cette initiative, lors d'une conférence de presse à Moscou. Également présent, le porte-parole de l'église orthodoxe russe Zevolov Chaplin. Il a appelé à la mise en place de mécanismes qui ne sont pas basés sur l'intérêt assimilé à l'usure. À l'instar de la finance islamique, la nouvelle structure financière interdira à ses membres les prêts avec intérêt, ainsi que tout investissement dans les activités non conformes à la morale orthodoxe, dont les jeux ou le tabac. De hauts représentants de l'épiscopat de l'église orthodoxe russe formeront un conseil de surveillance de la finance orthodoxe.
Ici Washington, La Voix de l'Amérique, la première édition du prix togolais des affaires s'est tenue ce week-end à Lomé. L'initiative émane de la Chambre du commerce et d'industrie du Togo qui a récompensé 7 hommes et une femme pour leur engagement dans l'entrepreneuriat économique du Togo. Je vous propose ce reportage depuis Lomé avec Kay Lawson.
La Chambre du commerce et d'industrie du Togo CCIT vient d'instituer des récompenses pour encourager les hommes et femmes d'affaires dynamiques ayant contribué au développement économique du Togo. L'un des objectifs du prix togolais des affaires est de promouvoir la culture de l'excellence dans le milieu des affaires dans le pays. Germain Meba, président de la CCIT.
Nous avons lancé ce prix togolais des affaires et donc nous visons la promotion de l'entrepreneur au Togo. Car initier, c'est entreprendre. Et donc, si on entreprend, c'est créer la richesse pour ce pays. Et on fera de telle sorte qu'on puisse promouvoir cela chaque année en vue de permettre à nos jeunes d'embrasser ce domaine.
8 personnalités du monde des affaires qualifiées de plus performants et de plus innovants de l'année 2014 au Togo ont été primées. Les secteurs industrie, commerce, services et artisanat ont été récompensés. Le spécial prix d'homme d'affaires de référence a été décerné à Alessandre Aziabou que nous écoutons.
Entreprendre n'est pas facile, mais pour nous c'est une tâche exaltante et ce prix nous motive à faire davantage. Le monde des affaires, c'est un monde particulier, mais il est assez dynamique et porteur d'espoir et porteur d'emploi pour la jeunesse. Moi, je pense particulièrement que c'est plutôt notre engagement, notre détermination qui ont été salués.
Sachant que la contribution de la femme dans l'économie togolaise n'est pas négligeable, la Chambre du commerce et d'industrie du Togo a créé un prix réservé à la gente féminine. C'est le Grand Prix de l'entrepreneuriat féminin qui a été remporté par la pharmacienne CC d'Almeida.
Je n'ai pas peur d'aller de l'avant pour réussir. Quand on fait quelque chose avec passion, on le fait bien. Il faut laisser les filles aller faire ce qu'elles veulent faire et réussir avec passion. Seule la passion permet de s'ouvrir et de pouvoir montrer de quoi on est capable. La femme togolaise a beaucoup de potentialités. C'est qu'il faut canaliser cette potentialité, cette énergie, pour permettre à cette femme-là de pouvoir participer au développement socio-économique.
Les lauréats du prix Jeune Entrepreneur de l'année et du meilleur projet d'entreprise ont reçu chacun une enveloppe de 1 million de francs CFA. Albert Chamdia, primé dans la catégorie meilleur projet d'entreprise pour son projet de lutte contre la malnutrition, estime qu'il faut miser sur l'innovation.
L'innovation est aujourd'hui la voie du succès. L'innovation et le travail. J'encourage les jeunes à innover, à ne pas baisser les bras et à toujours soumettre leur projet à de tels concours, car ce serait la porte pour eux de se connaître et de trouver les potentiels financements pour leur projet d'entreprise.
Le prix togolais des affaires pour sa première édition a récompensé dans 8 catégories, contrairement aux 9 annoncées. La catégorie secteur agriculture n'a pas connu de lauréat. Kay Lawson, Lomé pour La Voix de l'Amérique.
Vous suivez le magazine hebdomadaire de l'économie de La Voix de l'Amérique, au micro Camille Gros-Didier. Le nombre de personnes confrontées à l'insécurité alimentaire en raison de l'épidémie d'Ebola en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone pourrait dépasser 1 million d'ici à mars 2015. C'est ce qu'ont signalé récemment la FAO et le Programme alimentaire mondial, le PAM. En l'absence d'une amélioration de l'accès à la nourriture, assortie de mesures pour sauver la production agricole et l'élevage, des centaines de milliers de personnes vont connaître la faim. Déjà, selon les estimations, 500 000 de personnes sont en situation d'insécurité alimentaire grave dans les 3 pays d'Afrique de l'Ouest les plus touchés par le virus à Ebola. L'épidémie a provoqué un choc important dans les secteurs de l'alimentation et de l'agriculture dans les pays touchés, constate l'économiste Jean Senahoun de la FAO dans un entretien avec Muriel Sarr de la FAO.
L'impact le plus important, c'est les perturbations causées par la peur de contagion, les perturbations au système commercial dans le pays. Et à travers ces perturbations, le manque de main-d'œuvre a un impact sur la production agricole. Et selon nos estimations, par exemple, la production de riz, qui est la principale culture vivrière dans ces pays-là, dans ces 3 pays les plus affectés, la production de riz va baisser de 12% au Libéria, de 8% en Sierra Leone et d'environ 4% en Guinée.
L'économiste Jean Senahoun de la FAO, il s'entretenait avec Muriel Le Sarr. Et pour finir cette édition du magazine hebdomadaire de l'économie de La Voix de l'Amérique, eh bien, lancement lundi à l'embouchure du fleuve Brito sur la côte ouest du Nicaragua, des travaux d'un futur canal interocéanique qui devrait rivaliser avec le canal de Panama. Jean-Roger Bion.
Le projet reste controversé, mais s'il est mené à bien, il reliera à partir de 2020 la localité de Brito sur la côte pacifique à Punta Gorda, côté Caraïbes. Le chantier a été inauguré par le président nicaraguayen Daniel Ortega et l'industriel chinois Wang Jing, patron du Hong Kong Nicaragua Development Investment. Le canal traversera le Nicaragua sur 278 km, soit 3 fois la longueur du canal de Panama, d'une largeur de 230 à 500 mètres. Il ouvrira le passage à des portes-conteneurs de 250 000 tonnes. Entre-temps, les travaux d'élargissement du canal de Panama, brièvement suspendus en début d'année en raison d'un conflit financier entre le gestionnaire et le consortium chargé du chantier, avancent. Il vise à permettre le passage de navires transportant jusqu'à 12 000 conteneurs, soit plus du double de la charge actuellement autorisée, à emprunter cette voie navigable, surtout prisée par la Chine et les États-Unis.
Voilà, ainsi s'achève cette édition du magazine hebdomadaire de l'économie de la Voix de l'Amérique. Au micro, Camille Gros-Didier, qui vous remercie de l'avoir suivi.